Vous êtes bien dans l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier où je reçois Sarah Trey-Stéphanie. Si ce nom ne vous dit rien, vous avez pourtant peut-être déjà entendu sa voix dans le podcast Frouch. Entre documentaire et fiction, Sarah y interprète une jeune comédienne, maladroite et hypersensible, qui galère à trouver sa place à Paris. Un podcast très attachant, tout autant que ses vidéos Instagram ou même son livre dernièrement. Mais je ne vous en dévoile pas trop, je vous laisse l'écouter, en parler avec passion.
Salut Sarah et bienvenue dans Salut Sa Margot. Part de là.
Merci.
Comme je t'ai dit, je suis très contente de te recevoir parce que c'est notamment grâce à ton podcast que celui-là existe. Donc bienvenue dans l'émission.
Merci.
Du coup, toi, pour ceux qui ne te connaissent pas trop, il y aura une petite intro qui va te présenter.
Ok.
Mais du coup, aujourd'hui, tu es un peu réputée pour faire de la comédie.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est arrivé en fait dans ta vie? Est-ce que c'était le cinéma d'abord?
Comment c'est arrivé? En fait, comment la comédie est arrivée?
Ouais.
En gros, je vais essayer de faire très court parce que j'ai tendance à aller dans les détails. Mais en gros, j'ai commencé l'improvisation. J'ai découvert l'improvisation quand j'avais 11 ans. J'ai eu un coup de cœur de fou parce que moi qui étais très timide, j'avais cette excuse pour faire ce que je voulais sur scène et enfin lâcher le regard des autres. Et donc c'est là où la comédie est entrée dans ma vie. Et ensuite, j'ai fait les cours Florent. Quand j'avais 24 ans. Et ensuite, j'ai fait des petites vidéos sur Internet qui s'appelaient Bonjour, Bonjour. C'était des femmes très différentes. Ça se fait beaucoup maintenant, tu sais, les sketchs où tu te mets des perruques, machin. Mais moi, j'ai essayé vraiment de faire ça le plus réaliste possible. Et donc, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés par mon travail. Et jusqu'au moment où je fais Frouch, parce que je découvre les podcasts et je veux absolument mettre dedans de l'intime, du réaliste et de l'humour. Et voilà. Mais avant ça... Non, et en parallèle de ça, je faisais des petites scènes ouvertes, dont le Paname Comedy Club, le Trempoint, et j'avais un One Woman Show que j'ai joué une fois au Théâtre du Marais.
Ok.
Voilà.
Et du coup, au début où tu débutes l'improvisation, c'est sous quelle forme? Tu fais des ateliers théâtre?
C'était en primaire, c'était ma mère qui avait insisté auprès du système scolaire pour intégrer des cours d'improvisation.
D'accord.
Et donc c'était tous les mardis midi et genre c'est la première fois, parce que c'était quand même du travail, enfin ça faisait partie du cursus scolaire, c'est la première fois que j'attendais un cours avec autant d'impatience et quand les cours étaient annulés je devenais dingue quoi. Genre, c'était une passion quoi.
Et à ce moment-là, tu te dis, cette passion, c'est là où je veux aller, ou juste tu l'exerces comme quelqu'un qui ferait du sport à côté des cours
Non, je me dis pas du tout que c'est... je me dis pas du tout que je vais devenir comédienne ou quoi, pas du tout. Je me dis juste que ça me fait un bien fou. Et comme du sport, en fait. Je me dis juste ça, parce qu'à l'époque, quand j'étais petite, je voulais être styliste ou bibliothécaire. Ou caissière.
Tout le monde veut être caissière.
Tu sais, je voulais avoir les bagues autour des mains. C'est bon. Clac, 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 clac. Et donc, rien à voir. Et voilà. Surtout, mon grand rêve que je ne disais à personne, c'est que je voulais être chanteuse, parce que j'adore chanter. Mais à l'époque, déjà, c'était tout le monde voulait être chanteuse. Tu vois, à la cour de récré, il n'y avait aucune originalité à être chanteuse. Donc, je me disais, vas-y, tomber, on va pas le dire. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de relier avec la chanson. Tu sais, dans la saison 3, j'ai essayé d'en caler une ou deux. Comme ça, j'ai pu mettre des titres sur Spotify. Et aujourd'hui, mon rêve actuel, c'est de monter sur scène, de faire un EP et tout. Et voilà.
Trop cool. Et du coup, entre Bonjour, Bonjour, du coup, qui est une émission à YouTube que tu lances un peu plus tard, et les cours d'improvisation, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la comédie toujours ou
Les cours d'impro.
T'as été cours Florent, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Au début, je suis partie en école de graphisme. Je fais une mise à niveau en art appliqué. Au début j'étais très forte et puis après j'étais moins forte. Donc à un moment ils m'ont dit on te convoque dans notre bureau pour te dire t'es sûre que c'est ce que tu veux faire machin. Et moi je voulais pas du tout faire ça, en fait j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, là ça marchait trop bien pour la première fois de ma vie, et ensuite je suis partie par dépit dans la suite logique qui était des études de design graphique. Première année ça va, deuxième année ça dégringole parce que je me dis mais tu sais tu fais des chartes graphiques, tu fais des logos. Et donc on fait des stages dans des bureaux de maire, de machin, et je me dis, j'avais fait un stage où on devait, notre mission pendant une semaine, c'était d'inventer Tu sais, les poulines, tu te souviens des slips poulines? C'était, ah oui, mais t'es peut-être trop jeune.
Les slips poulines?
C'était un truc avec des gros élastiques.
Genre frigul?
Oui, peut-être.
Frigul?
Oui, peut-être. Et on devait inventer des, tu sais, des, comment on appelle ça, des dessins, quoi. Voilà. Et je me disais, mais je vais pas faire ça de ma vie. Et donc, je continuais les années et tout. Et je me disais, mais si, pitié, non, c'est pas possible, je vais pas faire ça de ma vie. Et puis jusqu'au jour où ils me convoquent et ils me disent, bah, on te laisse pas passer en DG3, soit tu deviens infographiste, donc exécutant, soit bah, tu dégages. Donc moi je me dis, mais j'ai pas du tout envie d'être infographiste, mes parents sont trop vénères, parce que j'ai eu une scolarité très difficile aussi, j'aimais pas du tout travailler, je m'ennuyais très vite, donc j'avais des notes de merde, donc je me disais que j'étais nulle à l'école, je ramenais des bulletins horribles, et donc là ils se disent, putain mais c'est encore pas ça Sarah, t'as 21 ans, tu vas sur tes 22 ans, non t'as 23 ans, bref. Et donc je dis à ma soeur de qui je suis très proche, bah je suis en train un peu de me faire virer de l'école, elle me dit, bah c'est pas grave, c'est quoi ton rêve le plus grand, machin, et je dis, bah c'est de faire du théâtre. Parce que l'impro, je m'étais pas dit que j'en... Tu sais, quand j'avais fait de l'impro à 11 ans, je m'étais pas dit que ce serait mon métier, mais ça avait vraiment, en quelque sorte, un peu changé ma vie, tu vois. Et après, plus tard, j'avais vu un reportage sur les cours Florent, il y avait eu une série sur les cours Florent, je m'étais dit, putain, ce serait trop bien qu'un jour je fasse ça, bref. Et j'avais continué le théâtre un petit peu en parallèle durant tout ce temps, donc je lui ai dit, bah, moi, je vais faire les cours Florent, et donc elle me dit, bah, tu fais un dossier à papa et maman, tu dis comment tu vas te faire de la thune, où tu vas habiter, blablabla, bref. Donc j'ai négocié tout ça et j'ai pu partir au cours Florent pendant 3 ans, c'était génial, et ensuite je suis devenue professeure au cours Florent, et j'ai commencé, comme je te disais, à faire des petites scènes ouvertes jusqu'à mon spectacle et le confinement.
Ok. Et du coup, au moment où tu commences les cours Florent, tu étais déjà sur Paris ou t'as dû...
Au moment où je commence les cours Florent, j'habite chez ma sœur en fait. Okay. Pendant que je fais le stage d'accès de 2 semaines, j'habite chez ma sœur à Paris. Et quand c'est validé et qu'ils me disent, bah, vous commencez le cursus, je cherche un appartement. Enfin, tout va très vite en fait. Okay.
Et entre étudiants, ça se passait comment? Parce que du coup, toi, c'était pas forcément un domaine que tu maîtrisais. Est-ce que c'était...
Oui, alors c'est pas un domaine que je maîtrisais, mais depuis mes... cours d'impro où j'avais 11 ans, je n'ai pas arrêté le théâtre pendant un an, et donc c'était quelque chose que je kiffais. Et puis surtout, quand t'arrives au cours Florent, généralement la plupart des gens n'ont pas fait de théâtre, enfin il n'y a pas de professionnel de chez professionnel en première année, tu vois. Donc c'était des artistes, des gens passionnés de théâtre, tu vois, ils avaient tous lu tous les plus grands classiques. Je me souviens, on avait un prof qui nous disait, vous devez lire entre chaque cours 2 ouvrages, sachant qu'on avait cours lundi, mardi, mercredi, vendredi, et donc on devait lire 2 ouvrages entre chaque cours. Et les gens lisaient, ils étaient passionnés, et moi je comprenais pas, parce que j'ai pas cette passion du théâtre classique, antique, des tragédies, machin. Donc bref, il y avait des gens qui excellaient là-dedans, et puis moi, et pareil, j'avais pris option impro.
Okay.
Et pareil, c'était la révélation. J'avais envie de me rouler par terre de bonheur, de plaisir. Enfin, c'était la jouissance. C'était un orgasme.
Et à ce moment-là, tu commences à écrire pour toi-même, du coup, en même temps, ou...
Attends, je réfléchis. Bah là, j'avais commencé à faire. Non, j'ai pas. Je commence pas à écrire pour moi-même. Non. Non, il y a tellement de travail que je peux pas. Mais par contre, tu vois, l'improvisation, ça a été très formateur, parce que ils te disent pas que t'apprends ça en même temps, mais t'apprends à faire des canevas. Enfin, je veux dire, quand t'arrives sur scène, il faut que ton histoire soit sensée, soit crédible, soit pas caricaturale, et tu apprends à imaginer tout de suite une scène avec un début, un milieu, une fin. Enfin, tu vois, ça t'apprend à construire un cadre. Donc il n'y a aucune théorie, mais dans la pratique, t'apprends énormément. Et donc ça m'a été hyper bénéfique pour ensuite mes petits personnages que j'ai créés qui étaient très réalistes, et ensuite Rouge, où c'est de l'impro, et dans l'impro que tu fais avec tes partenaires, tu crées la suite de l'histoire, etc.
C'est un point où on reviendra un petit peu plus tard sur comment Fouch se déroule, etc., avec tes invités.
Ouais.
Mais du coup, bonjour, tu le lances après tes études au cours Florent?
Oui, exactement. C'est l'année d'après, je crois. C'est l'année d'après où c'est vraiment le vide sidéral.
Okay.
Et où tu te dis, là, l'école est vraiment finie.
Ouais.
Genre, j'ai détesté l'école, en gros, dans sa globalité, mais là, je n'ai plus rien. Et je me dis, en fait, j'avais un rêve à une époque, c'était de percer sur YouTube. Tu sais, à l'époque de Natou et tout, et je me disais, vas-y, il faut que je perce, je fasse des personnages et tout. Et je me dis, ça doit être trop difficile d'écrire ça. Et donc un jour, je le fais à la rage, vraiment. Je me dis, bah viens, on regarde ce que ça donne. Puis tu mets un petit orteil dans l'eau. Tu te dis, bah c'est pas si pire. Oh, le deuxième, le troisième. Et puis je me lance dans ces personnages. Et voilà, et ça m'a beaucoup appris sur l'écriture, sur le montage, etc. Et voilà, et du coup, je les ai envoyés à pas mal de personnes. Et ouais, je me suis fait pas mal de réseaux grâce à ces petites vidéos. Je n'ai jamais percé sur YouTube, mais je me dis que c'est peut-être pas plus mal.
C'est le crash test.
Et voilà, et je suis contente de ce tout début de carrière, j'emploie des gros guillemets, et que ça se passe par le podcast, parce que je trouve ça tellement ce que je disais là dernièrement, c'est que je suis amoureuse du podcast, quoi. Je trouve trop bien ce média, je le trouve incroyable.
Voilà. Mais juste avant de faire ton podcast, il me semble que t'as un petit peu essayé la fiction déjà en jouant toi-même. Il me semble que t'as un petit peu joué avec Studio Beagle et dans un film de cinéma aussi, non?
Ah ouais?
T'as pas fait le film d'Anabissus?
Alors que j'ai fait de la figuration. Donc on me voit de loin en jaune. Oui, j'ai fait de la figuration avec Marc Tourneboeuf d'ailleurs. On s'était retrouvés sur ce tournage-là. Et c'était une super expérience. On était tous habillés dans les années 70 pendant mai 68, là, tu sais. Et bon, voilà, j'ai fait de la figuration. J'ai fait un truc pour Studio Beagle. Je crois que c'était avec Marion Séclat. C'était des rôles anecdotiques. Et je pensais vraiment qu'un jour j'aurais ma place dans Studio Beagle, parce que ça c'était mon rêve ultime. Et c'était Lorenzo Benedetti qui avait créé ça, et on se parlait un peu à l'époque, il adorait mes vidéos. Il m'avait dit, on va faire quelque chose. Et puis finalement, c'est à l'époque où lui il était en train de revendre Studio Beagle, donc ça ne s'est pas fait. On s'est retrouvés plus tard pour la signature de Frutch avec Paradiso et Spotify.
Ok. Donc finalement, même si c'est pas toi qui allais à Studio Beagle est un peu venu à toi.
Bah oui, finalement, Frutch, c'est ça. Donc finalement, parfois les choses n'arrivent pas, mais c'est pour que la pâte à crêpes, comme on dit, se repose. Monte, et ouais. Voilà.
C'est ça. Et l'expérience au cinéma, même si c'était de la figuration, ça t'a pas donné envie de rentrer dans ce milieu-là?
Ah non, mais moi, c'est mon rêve ultime de faire du cinéma. Oui, bien sûr. Et puis surtout, tu sais, ça fait 4 ans que je fais les Césars en tant que, ben, en tant que comédienne. Alors, on appelle ça hôtesse. Je déteste, mais en gros, je suis la remettante des remettants des Césars. C'est-à-dire que, okay, par exemple, quand, je dis n'importe quoi, Benjamin Laverne remet un César, le César d'honneur, c'est moi qui, en coulisses,
dans les backstage,
arrive sur scène, clac, 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 et qui lui remet, pendant qu'il fait noir, le César.
Okay.
Et en fait, t'es obligé d'assister à 4 jours de répétition intense où tu vois tous les comédiens et comédiennes qui font leurs sketchs, les doublures lumière qui sont faits par des comédiens des cours Florent, les élèves, et tu vois comment ça se passe. Et à chaque fois, alors c'est à la fois douloureux parce que comme je suis très timide, j'ai du mal à me faire une place, et puis je me dis, je suis qu'hôtesse, machin, c'est nul, nanan. Je me sens jamais vraiment à ma place, et à la fois, je vis 4 jours mais en immersion totale, et à chaque fois j'ai un truc qui me traverse où je me dis, c'est exactement là que je veux être dans l'univers du cinéma. J'ai envie de, je sais pas, il y a un truc inexplicable qui me transcende, et c'est mon rêve ultime d'être comédienne. Et voilà, et en fait, au sortir des cours Florent, on a fait des courts-métrages avec ma pote NJ Valalik. En fait, tu sollicites des gens, tu les payes pas.
C'est beaucoup de
travail. Et voilà, et puis pour des festivals où t'es jamais, tu sais, on avait fait le Nikon Festival. T'es quand même, ensuite tu ponds ton truc, ça ressemble jamais à ce que tu voulais de base, mais parce que tu passes par d'autres monteurs, etc. Et à la fin, bah, t'es noyé dans un amas de plein de productions aussi, de courts-métrages, et c'est démotivant à fond. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai découvert les podcasts, je me suis dit, mais je vais faire mon podcast toute seule, il n'y a pas besoin de moyens, il n'y a besoin que d'un micro zoom, de bons improvisateurs, j'en connais plein. Et c'est ça qui était extraordinaire, c'est que t'as une idée, tu la fais parfaitement, parce que, entre gros guillemets, j'arrête pas de dire ça souvent, gros guillemets, c'est entre gros guillemets, t'as moins de contraintes, y a que du son, mais à la fois le son, faut pas le négliger, tu vois.
Oui, c'est sûr.
Mais comme je veux à chaque fois que ce soit très réaliste, du coup j'essaie d'avoir, de jouer dans les lieux écrits dans le synopsis, dans le script, donc y a pas d'enregistrement studio où ça peut paraître fake, je fais tout. Et quand j'ai le contrôle sur toutes mes créations, c'est génial.
Et Fruits, t'as été produite dès la première saison ou
Non, justement, okay. C'est ça. C'est que la première, je me suis dit, je fais tout à ma sauce, je fais toute seule, okay. instantanément. Et ensuite, j'en ai parlé à Lorenzo Benedetti qui avait créé le Paradiso Podcast. C'était ma sœur qui m'avait dit, bah, il y a Lorenzo qui vient d'ouvrir son truc de podcast, envoie-lui le tien. Donc j'avais dit, bah, je fais un podcast, ça s'appelle Fruits. Il me dit, mais oui, je connais, j'en ai entendu parler, viens, on se voit. Et donc ensuite, on s'est parlé pour faire la saison 2. Donc lui, il me disait, bah, je vais essayer de te chercher un diffuseur. Okay. Et depuis le début, je lui disais, mais je sens un truc avec Spotify. Parce que lui me disait, je vais aller voir lui, là. Et je dis, mais non, mais je sens que c'est Spotify et tout. Et au final, bah, c'était Spotify et j'étais trop heureuse.
C'est un sacré nom pour commencer. Ah,
mais moi, c'était un rêve.
Ben, ouais.
C'était un rêve. Donc, j'étais en exclusivité Spotify. J'étais trop heureuse. Donc, voilà.
Et au début, du coup, que tu lances ton podcast, même s'il y a moins de contraintes parce qu'il n'y a pas les caméras, le montage vidéo, l'étalonnage, tout ça, toi, tu fais quand même avec un micro embarqué. Donc, c'est quand même une technique particulière. Comment tu t'es formée en fait à ça
Bah en fait, je me suis pas du tout... Dans la saison 1, tu veux dire?
Ouais.
Le premier épisode qu'on a tourné avec Margot, qui joue l'agente horrible, j'avais pris mon iPad, un énorme iPad, et j'avais mis des écouteurs, j'avais mis un verre d'eau. Juste là, il y avait Margot, et moi. Et j'ai posé les écouteurs, tu sais, le kit main libre, là, comme okay. on dit, sur le truc. Donc, ça fallait pas que ça vacille. Parce que je voulais pas que le son soit. Enfin, bon, j'avais fait à l'arrache. Et puis, petit à petit, j'ai pris un zoom que mon père m'avait acheté, un tout petit zoom. Mmh. Et puis, je savais que dès que tu bougeais une main, tu l'entendais, oui. tu sais, tu l'entendais sur le micro. Donc, j'étais vraiment un robot, oui, tu vois, pour pas qu'on entende quoi que ce soit. Et voilà, toute la saison 1, je l'ai fait avec ce petit enregistreur Zoom. Je dis H1N1, c'est pas du tout ça, ça c'est une maladie des vaches.
H1
H1 quelque chose. Et ça le faisait très bien, mais il fallait que je fasse vachement gaffe. Donc j'avais une oreillette, tu sais, pour avoir le retour. Donc c'est pas hyper pratique, mais ça le faisait. T'entends d'ailleurs dans les premiers épisodes que le générique est dégueulasse, qui te saute aux oreilles. Je réécoute parfois, je me dis putain, c'est horrible. Donc ça, le mixage, je ne sais pas faire et voilà, j'ai pas appris de ça, mais j'ai fait avec mes compétences et puis j'ai appris sur le tas, vraiment, grâce à Fruits.
Et aujourd'hui, t'as une équipe qui te
ouais,
suit
Exactement, lors de la saison... En fait, j'avais un peu peur parce que quand... Je me souviens, c'était les vacances et grandes vacances, et donc Léa, la productrice, me dit, bah alors, tu vas avoir un monteur, tu vas lui dire exactement ce que tu veux, et je lui ai dit, mais non, moi je veux monter mes trucs, parce que, si tu veux, c'est tellement ma patte quand je monte, parce que je veux faire croire que c'est un plan séquence, alors qu'il y a énormément de coupes, tu vois, on a des rushs de 1h30, donc il faut que ça tienne dans 15 minutes, et donc, et puis voilà, je voulais sélectionner ce qui était intéressant, dégager ce qui me faisait chier, pouvoir mettre des silences pour faire exister la scène et l'intimité. Donc voilà, donc je faisais une première passe, une énorme passe, ensuite il mixait, et ensuite voilà. Et j'ai eu un gros micro comme celui-ci, mm-hmm. pour la saison 2 et 3, et ensuite dans la saison 3 ils m'ont rajouté... Un perchman, je sais plus comment on dit. Mais pour moi, c'est pas utile parce que le son devient trop propre et il faut qu'on ait l'impression que ce soit un micro embarqué, tu vois. Donc voilà.
Et tu parlais d'improvisation, du coup, t'as quand même une trame, j'imagine, par épisode.
Ouais.
Et après, c'est les dialogues qui sont improvisés ou...
Oui, c'est ça, exactement. Okay. C'est-à-dire que. On essaie vraiment de détailler au maximum, évidemment, les actions. Donc, par exemple, Sarah arrive au bar, elle croise Margot qui l'attend. Elle demande à la... Enfin, je vais pas tout faire, mais voilà. En gros, c'est vraiment toutes les actions. Et parfois, quand il y a un instant un peu comédie, la productrice me demandait d'écrire les scénarios pour que, par exemple, si c'est Grégoire Ludig ou Jérôme Niel, ils puissent se rendre compte ou alors pouvoir piocher des punchlines.
C'est arrivé parfois que l'improvisation elle prenne le dessus sur ton scénario ou...
Oui, je crois que ça arrivait avec JP Zadi. Je sais plus exactement quand, mais parfois on part sur toute autre chose. Alors ça change pas tout l'épisode, hein, bien sûr, mais on part sur des trucs que j'avais pas du tout inventés. Tu vois, par exemple, avec Jérôme Niel aussi, le fameux matin où on se réveille, je me réveille chez lui, on est parti en live, comme diraient les buveurs. Et c'était trop bon, c'est un improvisateur de fou.
Surtout que comme c'est des personnes qui connaissent bien la fiction pour certains, ça doit vraiment t'apporter quelque chose en plus dans ton émission, quoi. Ça t'apporte des univers à eux dans toi,
ah
ton
oui,
univers,
non mais carrément,
quoi.
C'est clair. Ah oui, oui, c'est délectable, bien sûr. Ouais.
Et les invités, tu y vas comment en fait? C'est des coups de cœur que t'as, c'est du relationnel, c'est un peu des deux
Eh bah, c'est une très bonne question, puisque à la base, en fait, avec Paradiso, ce qu'on fait, c'est que je leur fais une liste de Noël. Je dis, j'aimerais jouer avec Benjamin Laperne, j'aimerais jouer avec Laure Calamy, tout ça, machin. Donc je fais vraiment ma petite liste. Et voilà, et donc parfois Paradiso les démarches, parfois c'est du relationnel. Okay. Faut savoir que il y en a pas mal que j'ai eu grâce à ma grande sœur, Marie-Thérèse Stéphanie, qui elle est journaliste, donc elle connaît, elle a travaillé avec JP Zadi, elle a travaillé, okay. c'est une amie de Grégoire Ludic, enfin voilà, il y a plein de noms que j'ai eu grâce à ma grande sœur. Mais elle m'a dit, bah je te mets en contact avec eux, mais c'est toi qui te débrouilles après. Donc je me souviens, JP Zadi, je lui ai dit bonjour JP, je suis la sœur de Marie, vous avez travaillé ensemble, je fais un podcast. Et il m'avait appelé, ou je sais pas quoi, il m'avait dit t'inquiète Marus, les amis de mes amis sont mes amis, je le fais ton podcast. Enfin,
trop bien. Mais le podcast, de ce que je comprends, tu l'as un peu lancé pas du jour au lendemain, mais t'as suivi ta pulsion, quoi. T'es pas trop la tête dessus, quoi.
Ah non, mais moi c'est ce que j'adore, c'est que je suis très impatiente et que j'ai besoin de faire les choses tout de suite. Sinon, ça m'énerve, ça me tend. Et c'est pour ça, tu vois, là j'ai plein de projets. Je sais qu'il faut faire des dossiers, qu'il faut aller voir des producteurs, machin, ça me gonfle, mais il faut le faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu une révélation quand j'ai connu les podcasts et que j'ai vu que c'était à la portée de chacun, qu'on pouvait tous en faire en fait. C'était pas ouvert que aux entreprises, c'est que c'était instantané. Et du coup, j'ai appelé ma pote Margot, je lui ai dit, bah bien, cet après-midi, on enregistre un truc. Tu sais, comme quand on joue, je lui ai dit, bah. On disait que t'étais une méchante agente et que moi j'étais une comédienne ultra timide, que c'était le rendez-vous de ma vie et tu me défonces la gueule, je te donne mon CV. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Et je me suis dit, mais ça va plaire aux gens de raconter l'histoire d'une meuf lambda qui leur ressemble par certains aspects et qui se fait défoncer. Parce qu'on a tous des moments de malaise, c'est universel le malaise. Et pourtant, ce qu'on met en avant, c'est la manière dont on brille, le succès, le machin. Ça fait du bien de voir des gens un peu galérer. Et voilà.
Mais justement, pour rejoindre ça, j'avais vu une phrase que tu avais dit en interview qui disait que tu voulais faire briller la faiblesse. Et je trouvais ça super mignon comme façon de le formuler.
Bah ouais, comme moi j'ai l'impression... Alors, je suis hypersensible, mais c'est vrai que... Du coup, j'ai l'impression d'être à vif souvent, tu vois. Donc, c'est-à-dire à vif dans les moments de joie comme dans les moments un peu plus durs. Du coup, les moments de malaise, je vais les subir fois mille par rapport à quelqu'un de normal. Et ouais, le malaise, ça m'a toujours fascinée, tu vois. Je sais pas si tu connais les caméras cachées de François Damiens. Et en fait, il jouait un vrai personnage complètement loufoque. Et je vais mal te le pitcher, mais c'était malaise land en fait.
Ouais,
c'était l'horreur. Je t'enverrai un truc, c'est horrible. J'adore voir des. Tu vois, l'exemple type, c'est évidemment Bridget Jones, qui est une trentenaire, qui galère, qui a un peu d'embonpoint, que ça marche pas. Et ça fait du bien de voir ça, tu vois. Mais on est tous faibles et voilà. Et tu vois, quand je rencontre une personne. Souvent, j'ai du mal, c'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai du mal avec le small talk. Je sais pas le dire. Small talk, c'est comme ça qu'on dit ?
Sûrement.
Tu connais pas ?
Non, je vois pas de quoi.
Le small talk, c'est un peu le bavardage en fait.
Oui.
Tu vois, quand tu
rentres. Faire la discussion.
Voilà, exactement. Ouais. Et ça, moi, je ne sais pas du tout faire. Ou alors, j'ai l'impression que les gens voient que j'en ai rien à foutre, tu vois.
T'es en train de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais dire.
Exactement, c'est exactement ça. Donc, tu vois, les soirées, machin. On vient me parler, on parle de son entreprise, machin, j'en ai rien à foutre et je me dis comment rebondir. Alors je pourrais dire ça et donc je relance la machine, je remets une pièce. Et en fait, ce que j'adore, c'est parler de l'intime. J'aimerais bien qu'on puisse, tu on se connaît pas, bah tu me parles de tes problèmes, tu me parles de l'amour, de l'amitié, bah il y a une meuf qui me fait chier ou je sais. J'ai l'impression qu'on est toujours en surface, que tout est superficiel dans ce monde.
Et qu'il faut toujours te montrer le meilleur en plus.
Et c'est ça, exactement. Alors que moi je pleure très souvent par exemple, tu vois. Je me fais tabou. Mais tu vois, j'ai du mal à trouver ma place dans cette société parce que c'est que du fake et c'est ça qui m'énerve, c'est ce dont on parlait, même dans les films, c'est que du fake. Et donc j'ai envie de parler des faiblesses, de la tristesse, de l'amour, des bâches qu'on peut se prendre. Mais tu vois, à cette époque, je m'étais pris une bâche monumentale par un mec, parce que bon, bref. Et je l'avais mis dans Frouch, je crois que je l'avais mis dans Frouch saison 1 ou saison 2, je ne sais plus. Mais c'est un exutoire où Ouais, ou ça me fait trop du bien de parler de ce que je vis. Alors c'est pas du tout tout ce que je vis, c'est vraiment amplifié fois mille, mais je pars de la base et j'augmente les curseurs, je mets les curseurs au maximum.
Même si c'est pas l'intention première, tu sens que ça a vraiment eu un effet presque thérapeutique ce que tu vis au quotidien, quoi.
Ouais, complètement. Complètement. J'adore, ça me fait trop du bien.
Ouais. Tu parles aussi beaucoup du coup dans ton podcast du fait de pas être prise au sérieux par les professionnels, etc. Est-ce que t'as l'impression que le podcast ça te sert un peu de CV aujourd'hui? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a un regard différent sur,
Oui, toi? Oui, carrément. Ça me fait trop du bien d'ailleurs parce que tu vois ce que je te disais, c'est que pour moi, ma mère me dit que non, mais si, j'ai été en échec scolaire. Vraiment, je l'ai vécu comme ça, c'était vraiment dur parce qu'on t'apprend, tu bâtis ta confiance. Sur tes notes en fait quand t'es enfant,
totalement,
tu vois, et on te dit
la comparaison aux autres notes,
exactement. Et je me souviens, il y avait une prof qui distribuait du pire au meilleur.
On m'a déjà fait ça,
tu vois, ou du meilleur au pire,
et elle dit les noix à boîte.
Ouais, c'est ça
c'est horrible.
Pas moi et c'était humiliant, tu vois, parce que t'y arrivais pas en fait. C'est comme, je compare ça à la nourriture, tu vois. Moi, je sais que j'ai une addiction à la nourriture, au sucre surtout. Et donc, quand il y a un pote qui me dit souvent « Je suis pas d'accord, quand on veut perdre du poids, on n'a que à faire ça. » En fait, non, tu n'es pas à ma place. Et de la même manière que quand tu as une addiction au sucre ou alors quand tu n'arrives pas à travailler, c'est pas parce que tu t'es pas concentré. Et je crois que le travail ou scolairement, c'est ceux qui sont en échec, c'est ceux qui ont essayé le plus de se concentrer, de rentrer dans le moule, parce que personne n'est content d'être en échec. Et donc, voilà, donc j'avais des mauvaises notes, du coup, j'avais pas confiance en moi. Et donc, le podcast, c'est le premier truc, puisque tu vois, j'ai reçu le prix SACD de la meilleure fiction en 2020 au Paris Podcast Festival. Donc, c'était la première fois que j'avais un prix. Et c'est la première fois que, en travaillant, j'avais de bons résultats. Et donc, ça m'a donné confiance en moi, en qui j'étais, en ce que je faisais. Et oui, du coup, je me sens moins l'arnaque du siècle. Comme tout le monde, parfois, je me dis, mais ils vont se rendre compte qu'en fait, j'ai rien d'exceptionnel. J'ai pris ma vie, j'ai pris un micro, et voilà. Mais ouais, c'est la première fois que... Et voilà, grâce à l'expérience, j'acquiers de la confiance. Et voilà. Je sais pas si je réponds bien à ta question.
Non, mais carrément. Et du coup, le livre, j'ai commencé un petit peu à en parler.
Ouais.
Est-ce que tu peux, si tu veux, je peux le dire, le titre en entier. Est-ce que tu le connais par cœur?
Oui, bah quand même.
Tu peux nous dire le titre.
Journal cru et trop intime d'une fille qui voulait se taper la terre entière.
Voilà. Et du coup, lis comment il est arrivé dans ta vie.
Eh ben écoute, c'était, je crois, il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, on était à la fin de la saison 2 de Frouch, et en fait, j'adore écrire, vraiment, j'ai une passion écriture, pareil, qui me fait du bien, je déverse tout, et un jour, mon père nous avait, j'avais écrit des cochonneries, pas des cochonneries, mais des horreurs, sur mon bureau, et mon père était tombé dessus, bref, il était pas content, et donc... Il m'avait acheté un journal intime et depuis, genre, je l'avais rempli et tout, j'adorais, je cribouillais, tu sais, je ressens mes émotions trop fortes, donc j'ai besoin de les... Voilà. Et depuis ce jour, j'adore avoir des journaux intimes. Et là, dernièrement, je m'étais séparée de mon copain, enfin dernièrement, il y a 2 ans, et j'avais acheté un cahier, un très beau cahier, et donc j'écrivais... Et à cette époque, j'étais obsédée par l'amour, vraiment, l'amour romantique. J'adorais ça, tu vois, j'en parle trop dans mon podcast. Parce que j'ai été éduquée comme ça. Et donc j'avais commencé à écrire mes envies, l'homme de ma vie, enfin n'importe quoi, fleur bleue à fond. Et je voyais un garçon à cette époque-là, et du coup j'avais écrit l'évolution. Et ça me faisait du bien de voir à quel point j'étais complètement folle, à quel point je projetais des trucs qui n'existaient pas dans les faits. Et je me disais, ce serait trop intéressant qu'un jour j'ai l'occasion d'écrire un livre, j'aimerais trop écrire un livre. En mode journal intime, tout ça. Et 3 jours plus tard, même pas 2 jours, il y a Larousse qui m'écrit. Bonjour, on avait beaucoup aimé votre podcast. Est-ce que ça vous dirait soit de faire une adaptation de Frouch, soit de faire une carte blanche, en fait, vous faites ce que vous voulez. Donc j'ai dit carte blanche, je pars sur un journal intime. Et en fait, je voulais vraiment faire un truc hyper réaliste. J'ai proposé à Larousse de faire comme un cahier, trouver un cahier noir, tu vois, type Moleskine, et que tous les écrits soient manuscrits,
okay,
avec des dessins, tout ça. Et au final, ils m'ont dit, bah, le risque, au début, c'était hyper chaud. Après, ils m'ont dit, bah, le risque, c'est que ça soit classé en jeunesse dans les librairies et que, à la lecture, au bout d'un moment, ça soit un peu lourd de lire une écriture où on essaie de décoder tout ça.
Ouais.
Voilà.
Parce que du coup, aujourd'hui, tu as des projets à venir ou des envies, en tout cas, tu parlais du chant tout à l'heure.
Oui, oui. Bah, j'ai des projets, j'écris des séries pour différentes boîtes de prod, donc ça, c'est très cool. J'aimerais reprendre Frouch, mais à la fois, j'ai envie d'aller un peu plus loin, tu vois, j'ai envie peut-être de faire des adaptations, peut-être que voilà. Donc pour l'instant, c'est en pourparler. Et sinon, je veux faire ma comédie musicale. Je veux faire la comédie musicale de Frouch. Voilà, les gens généralement ne me prennent pas au sérieux, mais j'y crois.
Mais c'est génial.
Je veux être sur scène, je me vois comme ça. J'ai trop envie. Tu sais, de te faire transpercer par le chant, les projos et l'acting. Et voilà, et puis j'aimerais être sur scène et chanter mon album. Voilà. J'écris des chansons, je les enregistre chez moi et j'attends le bon moment. Je crois profondément qu'il y a un bon moment. Tu vois, comme Frouch, ça a été un tsunami. Genre, c'était le moment, c'était maintenant et je pouvais pas contrôler cette envie. Là, le chant, j'y vais de temps en temps, c'est une envie profonde, mais j'ai pas tous les ingrédients encore. Bon, voilà. Je sais qu'il y aura un bon moment.
Je comprends. Mais justement, j'en parlais justement avec Ben Ever, mais moi, le podcast, je l'ai un peu lancé du jour au lendemain.
Ouais.
Et si on m'avait dit un an et demi après que je recevrais une des personnes qui m'a inspiré l'émission, j'y aurais pas cru. Donc finalement, oui, je pense qu'il y a des bons moments dans la vie.
Non, mais oui, c'est ça. C'est bien l'impatience, mais parfois, il faut accepter, quoi.
Bah écoute, merci beaucoup,
c'était
super intéressant. Et j'invite du coup toutes les personnes à aller écouter ton podcast et te suivre sur Instagram. Parce que oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais en plus du podcast audio, t'as aussi des petites capsules vidéo sur Instagram qui complètent un peu tout ça.
Faire, ouais.
Et c'est aussi un régal, donc
ouais,
faut vraiment
plaisir.
Découvrir ça.
Merci Margot.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était Margot en compagnie de Sarah Trey Stéphanie pour l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier. Merci à Marceau Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute. À très bientôt pour découvrir un nouveau parcours.